Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
This is my report on the Soviet question.
What's your answer?
I don't have one. The Kremlin is broke. So how were the Soviets suddenly on a spending spree?
Paul, I need your help.
Arranging an interview with Stalin.
Garrett, I've been trying to reach you.
Go see Walter Duranty at the New York Times.
Listen, I really need to talk to you. I found something big. It can break the story wide open.
Paul?
Mr. Jones.
Mr. Duranty.
So why are you really here?
I need your help.
This is Ada Brooks.
L'ombre de Staline en VO Mr. Jones, c'est un film d'Agnieszka Holland avec James Norton et Vanessa Kirby notamment. Julie, peux-tu nous en faire un petit peu le contexte global et tu pourras enchaîner sur la vie, l'angle que tu veux.
Bah c'est l'histoire, l'ombre de Staline, d'un journaliste aspirant, Gareth Jones, qui est conseiller en politique étrangère du premier ministre britannique de l'époque, donc on parle bien avant... la Seconde Guerre mondiale, donc du Premier ministre britannique David Lloyd George. Il est renvoyé et il décide, comme il avait déjà interviewé Hitler, de partir en Russie pour aller interviewer Staline. Bien évidemment, ça ne se passe pas comme prévu.
Ah non, on dirait presque une comédie dit comme ça. Est-ce que c'en est une?
Oui, non.
Pas trop, non, en fait. Non.
Pas vraiment, non. Je dirais même qu'on appuie très très fort sur l'angle dramatique, c'est-à-dire c'est très chargé en termes émotionnels, il se passe beaucoup de choses. Donc il y a la faim, le froid et la mort qui guettent Gareth Jones pour un film traité par Agnieszka Holland, donc qui est la réalisatrice, et pour lequel je vais mettre un peu de contexte dans la mesure où elle est réalisatrice polonaise, et donc bah, elle a vécu en fait avec cette censure venant de l'URSS. Donc ce sujet-là traité par elle possède une résonance quand même qui est assez particulière.
Donc du coup... Tu m'as dit que le drame était assez prégnant dans l'émotion du film, dans la teinte du film. Est-ce qu'on y trouve la juste mesure ou est-ce que ça pousse un peu trop un curseur d'un côté comme de l'autre?
Alors, moi, j'ai trouvé qu'on appuyait beaucoup trop sur l'emphase. Enfin, je veux dire, c'est trop. Enfin, il n'y a pas un moment où on peut souffler. Néanmoins, vu la nature du sujet, c'est-à-dire c'est en gros ce film-là, Gareth Jones, c'est lui qui en quelque sorte, enfin c'est tel quel raconté dans le film, c'est lui qui a découvert, on va dire, l'horreur du traitement qu'infligeait à l'époque Staline et ses sbires à l'Ukraine. Donc ça reste quand même très grave, c'est-à-dire il y a des paysans qui meurent de faim, de froid, qui doivent travailler, il n'y a pas une céréale à se mettre sous la dent, enfin bref, c'est l'horreur. Donc voilà, par rapport à ça, c'est normal qu'il se passe beaucoup de choses, mais en fait, il s'en passe peut-être trop en termes d'émotion. C'est beaucoup trop prenant, j'ai trouvé.
Lila.
Moi, pour le coup, j'ai pas trouvé ça tellement prenant, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute la première partie du film qui va raconter la quête de vérité de ce journalisme et son chemin vers la découverte de l'Holodomor, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, le génocide... enfin, le génocide volontaire par la famine. Et effectivement, au moment où on arrive dans cette partie-là du film, bon, on ne peut pas dire que ça ne fait rien, hein. C'est quand même une partie qui est assez dure. Le souci, c'est qu'après ça, on revient dans la sphère un peu politique, journalistique, des petits arrangements, des petites choses, enfin, de la corruption... Parce qu'en fait, au final, ouais, il y a deux films en un. Il y a d'une part cette quête de vérité, et ensuite, il y a la question de faire affirmer, connaître au monde cette vérité face à, justement, bah, globalement, des instances politiques, journalistiques qui ont plutôt intérêt à ce que tout ça demeure sous silence. Et ça crée un peu une rupture, je trouve, au milieu du film, même si, effectivement, c'est une partie qui est très importante. Qui est très pertinente, d'autant plus pertinente que au final on en voit encore les conséquences aujourd'hui, à ce jour, personnellement, autant l'Holocauste, ça va, j'en ai entendu parler depuis le collège, autant c'est vrai que ce soit d'ailleurs la famine sous le régime de Staline ou de Mao Zedong ou ce qui a pu se passer avec le Angkar, enfin les Khmers rouges au Cambodge, il y a des parties de l'histoire qui sont beaucoup plus passées sous silence, ça en fait partie. Donc c'est important qu'on ait toute cette partie-là sur la désinformation qui a pu avoir lieu dès l'époque où ça se produisait, mais finalement qui s'est inscrite plus tard dans l'histoire. Seulement, ça crée pour moi vraiment une rupture. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment du film c'est, si c'est à la moitié, si c'est aux trois quarts, etc. Mais il y a vraiment un moment où la tension, elle retombe. Et on doit repartir dans une autre quête qui est finalement, qui paraît, même si ces enjeux politiques sont flagrants, qui paraît finalement un peu futile après cette séquence émotionnelle très, très sensorielle qu'il y a au milieu du film et qui finalement se perd un petit peu.
Il y a deux grands blocs, mais qui ne sont pas mis dans le bon ordre.
Et qui ne sont pas l'ouest et l'est, non.
D'accord. Bien joué, tu marques un point. Merci. On reste sur le communisme. Nam, le traitement du...
Tu dis ça parce que je suis à moitié viette.
Je passe. Nam.
Oui, alors moi il y a un aspect que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est parce que ça, le film du coup se déroule à l'époque où les gens... pouvait encore en toute innocence croire en l'URSS, en la promesse du communisme, vu que ça se déroule entre les deux guerres et que toutes les histoires de famine ou de goulag sont pas encore sorties. Et même le personnage principal, quand il part en Russie, on a des surimpressions de films de propagande sur le train qu'il est en train de prendre, et ça a vraiment du coup le côté, même lui il croit encore, et à la base si lui il y va c'est parce qu'en fait il a regardé les chiffres de l'État, il a dit il y a des problèmes dans vos chiffres, j'aimerais comprendre d'où vient cet argent, etc. Et pendant tout le film il va pas arrêter de croiser des gens qui comme lui veulent y croire. Sauf qu'il y en a certains qui en toute connaissance de cause vont continuer à y croire et faire en sorte de mettre la poussière sous le tapis pour la grande cause. C'est la fameuse phrase, on peut pas faire 2 mètres sans casser des œufs. Bon, c'est comme des millions de personnes, mais bon, si vous voulez, c'est certes. Et même dans le film, le film s'ouvre et se termine notamment par George Orwell, qui est présent. Et il va rencontrer George Orwell à la fin. Et il lui explique, voilà, il y a des millions de morts, il y a une famille monstrueuse, et tu sens que George Orwell, qui n'avait pas mis les pieds en Russie, il a encore envie d'y croire. Il lui demande, mais vous êtes sûr, il n'y a pas de... Il y a un peu les larmes aux yeux.
C'est une naïveté un peu...
C'est ça. Et du coup, moi, j'ai bien aimé cet aspect-là, parce qu'au final, pendant tout le film, Julie parlait d'une tension qui est assez présente, mais au final, la tension, c'est nous qui la voyons. Et pas le personnage qui pose des questions qu'il devrait pas poser. On voit quand même tout le contrôle du parti sur certaines personnes, les gens qui écoutent aux portes, etc. Une collègue journaliste allemande, lui pose une question, elle va mettre de la musique avant de répondre. Que des trucs comme ça qui pourraient mettre la puce à l'oreille de l'autre, mais t'as pas l'impression qu'il capte totalement. Parce qu'en même temps, c'est aussi quelque chose qui était nouveau à l'époque. Aujourd'hui quand t'as des films qui se passent sous le communisme de l'URSS, tous ces codes là c'est des choses où nous on s'est déjà habitué, on sait comment ça se passait, mais lui pas encore à l'époque. Ce côté là je trouvais ça plutôt intéressant, avec justement et même lui quand il arrive en Ukraine, j'ai vraiment l'impression que le moment où il se rend compte vraiment de l'horreur, c'est quand il arrive à la maison qu'habitait sa mère.
Même avant, je crois il est à la gare, il se retrouve à la gare, il y a un cadavre
oui,
sur
c'est
le quai.
Ça. Quoi.
Oui, et personne qui s'arrête de même.
Non, ouais, c'est ça. Et il fait tout un voyage jusqu'à cette maison-là. Et après, c'est le voyage de retour où vraiment, lui aussi, en fait, il va vivre ce qu'ont vécu les Ukrainiens sur place, même si c'est sur une période de temps plus réduite. Et c'est vrai que c'est un passage qui est plutôt long, mais on voit notamment le régime alimentaire des gens en cette période.
Anthropophage aussi.
Voilà. C'est anthropophage et écorce bouillie. Voilà.
C'est en ça que j'ai trouvé que l'émotion était parfois trop forte. C'est-à-dire qu'il y a une scène... Enfin, je veux dire... On y croit sans trop y croire. Enfin, c'est surtout très fatigant.
C'est des trucs qui ont dû arriver.
Oui, mais là, c'est vraiment filmé avec un renfort de beaucoup d'effets esthétiques, j'ai trouvé. Où en fait, voilà, il y a des enfants, donc il n'y a pas de parents, et il l'invite à manger avec eux. Donc il dit, Gary Jones, ok, j'ai pas bouffé depuis une semaine, j'arrive. Pas comme ça dans le film, mais c'est l'idée. Il arrive, et puis il dit, il a l'air de. Bon, il trouve ça un peu dur, mais c'est pas fou. Et il dit,
mais
c'est quoi ?
C'est la viande quand même.
Voilà, et bon, c'est de la viande exceptionnelle. Et là, il y a une gamine qui dit, c'est notre frère qui nous l'a laissé. Et il dit, Gary Jones, et il est où le frère ? Gros silence.
Voilà. Bon, bah, ça, le frère, c'est un peu forcé, dans le frigo quoi. Dehors, moi, à l'extérieur.
Le choc quoi. Marche quand même quand il se trouve face au cadavre juste après. Ouais. Je trouve que l'effet fonctionne quand même.
Justin, pour faire un peu la synthèse et oui. Pour conclure.
Bah, moi, je trouve que quand même le sujet est assez fort pour que maintenir la tension tout le film. Et puis, comme le disait Nam, c'est-à-dire que le lien se fait par rapport au mélange de... Parce que c'est, faut savoir que jusque dans les fin des années 50, début des années 60, même en France, il y avait des intellectuels français, des communistes, oui. Qui niaient que ce genre de choses avait pu arriver en Russie. Il y avait encore... mais quand on le voit dans le film, il y a un mélange d'utopie et de cynisme pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas,
mais qui veulent y croire.
Qui veulent y croire. Donc il y a un mélange de cynisme, surtout au début, quand on voit la débauche des notables étrangers... en Russie, des journalistes étrangers en Russie. On a une espèce de scène d'orgie au début. On voit qu'ils profitent du système. Et on voit où passent toutes ces économies, ce collectivisme d'État. Ils passent à la fois pour industrialiser le pays, mais aussi pour nourrir un peu les nantis, pour la dépravation des nantis. Donc il y a ce mélange de cynisme et d'utopie. Et puis ça montre aussi par rapport au personnage de Peter Sarsgaard, qui était un prix Pulitzer à l'époque, ouais. Et on apprend qu'il a fallu attendre les années 90 pour que son journal, le New York Times, nie, parce que c'est lui qui amène le démenti en fait à la fin. D'accord. Du film, et on va pas croire Gareth Jones par rapport aux informations qu'il va donner. Et il faut attendre les années 90 pour que son journal, le New York Times, nie ce qu'il avait rapporté de ce qui se passait en Russie. Donc il y a quand même pas mal d'informations, c'est quand même vraiment informatif. Et il y a quand même, moi je trouve, le milieu du film, la séquence en Ukraine, c'est quand même un moment fort qui reste. Quoi.
Non, mais pour terminer.
Deux petites choses. Alors je sais pas si on a bien précisé, enfin je me rappelle pas, mais c'est tiré d'un fait réel, c'est-à-dire que le type a vraiment existé. Et on a la fin de sa vie qui est citée dans le film.
À 30 ans, ouais.
Ouais, c'est ça. Une dizaine d'années après, oui, il s'est fait abattre en Mongolie par les Soviets. Et oui, on disait qu'à la base, il allait en Russie pour interviewer Staline, et ce qu'il va jamais réussir à faire. mais du coup, ça donne un côté un peu, une notion un peu kafkaïenne du pouvoir, avec ce château inaccessible, mais qui dirige tout dans l'ombre. Du coup, dans l'ombre de Staline. Voilà, bref.
C'est parfait. J'ai même pas besoin de faire la transition, la conclusion. Merci beaucoup pour vos avis sur l'ombre de Staline.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critiques, analyses, débats, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.